d'enseignantes et peu de rectrices, beaucoup de maîtres de conférences, mais peu de présidentes d'universités, encore moins de directrices d'écoles, de grandes écoles. Plus qu'ailleurs encore, le pouvoir dans l'enseignement supérieur a du mal à se conjuguer au féminin. Enfin, tout de même...
À 36 ans, Najat Vallaud-Belkacem devient la première femme ministre de l'Éducation nationale. Ascension fulgurante pour celle qui était précédemment chargée des droits des femmes et de la ville. Née au Maroc, elle s'engage au Parti socialiste au lendemain du séisme du 21 avril 2002. Élue conseillère régionale de Rhône-Alpes, elle se fait connaître en 2007 en devenant porte-parole de Ségolène Royal, candidate à l'élection présidentielle. Cinq ans plus tard, elle rempile dans ce rôle, cette fois auprès du candidat François Hollande. En mai 2012, le président élu la nomme porte-parole de son premier gouvernement.
Et c'est une première, une ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Marie-Caroline Missia.
Oui, c'est un paradoxe. Jamais, en effet, une femme n'était encore parvenue aux fonctions de ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. La nomination de Najat Vallaud-Belkacem rue de Grenelle marque bien, de ce point de vue, un vrai tournant dans un ministère qui compte de plus en plus de femmes à sa base et très peu au sommet. Alors, au-delà du symbole, c'est un signal fort, inédit, et qui a achevé de convaincre quelques rares femmes exerçant des responsabilités importantes dans l'enseignement supérieur à se lancer et à créer en septembre dernier l'Association pour les femmes dirigeantes de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Alors, nous sommes très heureuses de recevoir l'une de ses représentantes, Sophie Béjean. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes membre du bureau de la toute nouvelle AFDESRI, dont j'ai décliné le sigle à l'instant. Vous êtes aussi présidente de Campus France, du CNUS et du Comité pour la stratégie nationale de l'enseignement supérieur. Vous êtes professeure de sciences économiques à l'Université de Bourgogne, université que vous avez présidée de 2007 à 2012.
Tout à fait.
Voilà, CV complet et riche. Alors, Sophie Béjean, où sont les femmes dans l'enseignement supérieur? Pas dans des postes clés, manifestement. Peut-on faire un tour d'horizon, donner quelques chiffres pour avoir une idée de la réalité?
Oui, c'est intéressant parce que dans l'enseignement supérieur, c'est un milieu ouvert, voilà, de gens qui sont formés et on peut se dire que peut-être la place des femmes est importante. En fait, il y a 30% seulement des recteurs qui sont des rectrices, 11% des présidents d'université qui sont des présidentes. D'ailleurs, pour les présidents d'université, il y en avait deux fois plus avant 2012. Les dernières élections n'ont pas été favorables à leur place, à un poste de responsabilité. 7% des directeurs d'école d'ingénieurs, par exemple, sont des directrices. Donc finalement, les postes de responsabilité, en tout cas du plus haut niveau, mais même à un niveau plus inférieur, sont rarement, trop rarement occupés par des femmes.
Et comment ça s'explique, d'après vous ?
Je crois que, comme dans d'autres secteurs d'activité, finalement, les raisons sont multiples. Elles sont culturelles, elles sont liées à la façon dont les femmes veulent être professionnelles, veulent assumer à la fois leur vie de famille, leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Et puis, peut-être que les hommes ne leur font pas tant de place que ça. Aussi, c'est sans doute multiculturel, mais en tout cas, c'est une réalité particulière dans ce domaine.
Et l'université est un milieu assez machiste, ce qu'il faut comprendre à travers les lignes dans vos propos.
Vous souriez.
Il l'est sans doute autant qu'ailleurs. C'est vrai que je me souviens des propos rapportés par une jeune collègue qui candidatait à un poste de professeur, parce que déjà chez les professeurs, les femmes sont moins nombreuses que chez les maîtres de conférences. Et lors de son entretien devant le jury, qui était d'ailleurs majoritairement masculin, un homme lui a demandé si elle ne ferait pas mieux de s'occuper de ses trois enfants. Et là, voilà, on se dit que ce milieu-là est aussi machiste. Alors je ne sais pas s'il l'est plus ou moins qu'ailleurs, mais en tout cas, il l'est.
Alors, vous avez créé cette association en septembre, on l'a dit. Quelle est l'idée que vous portez? Quels sont les objectifs de l'association? Et quelles vont être ses premières actions? Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Alors, c'est une association qui a été créée effectivement à l'initiative de quelques femmes. Sa présidente est Brigitte Plateau, qui dirige l'Institut National Polytechnique de Grenoble. Et le but de l'association, c'est à la fois de sensibiliser sur la réalité des chiffres, par exemple, de la situation, des difficultés que rencontrent les femmes lorsqu'elles prennent des responsabilités. C'est d'accompagner celles qui sont en responsabilité, mais aussi d'aider celles qui le souhaitent à finalement entrevoir des solutions et en tout cas...
Une sorte de coaching, c'est un peu ça que vous proposez ?
Oui, alors ce ne sera pas notre métier ni notre fonction, mais éventuellement un conseil à donner aux femmes qui souhaitent prendre des responsabilités, soit pour être nommées, soit pour se faire élire, de se faire accompagner, si elles le souhaitent, parler, échanger les expériences, montrer que les situations ne sont pas uniques, c'est déjà un pas en avant.
Et Sophie Béjean, on me souffle que vous accueillez aussi des hommes dans votre association.
C'est une association qui est très ouverte, qui accueille des hommes, et d'ailleurs plusieurs d'entre eux ont déjà souhaité rejoindre l'association, et qui est très ouverte aussi, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de restreindre du tout cette association aux femmes qui sont en poste de responsabilité, mais surtout de l'ouvrir à celles qui pourraient souhaiter prendre plus de responsabilités pour les y aider.
Mais pourtant, avant, à la conférence des présidents d'université, il y avait une femme. D'ailleurs, elle est toujours en poste dans le supérieur à un autre endroit, Simone Bonafous. Il y a aussi, quand même, on est habitué à avoir des universitaires. Ici, à Rue des Écoles, j'en accueille énormément. Est-ce que c'est une question de génération? Première question. Et deuxième question, est-ce que ça change selon les disciplines, selon les univers? On sait que dans l'univers scientifique, il y a beaucoup moins de femmes.
Alors sans doute, il y a un effet de génération. En tout cas, il y a des hommes et des femmes qui se sont engagés pour que ça change. Et je voudrais évoquer, par exemple, l'engagement de Vincent Berger, qui à l'époque était président de l'université Paris 7 et à mes côtés à la commission des moyens et des personnels de la conférence des présidents d'université. Lui et le ministère, donc la CPU et le ministère, ont porté des projets communs pour améliorer la parité dans l'enseignement supérieur, et ça a débouché sur la création d'un département au ministère, la MIPADI, qui a précisément cet objectif. Simone Bonafous, que vous citez, est membre aussi de l'association. Donc les choses sont sans doute en train d'évoluer, mais en même temps elles évoluent relativement peu rapidement. Et par exemple, juste un exemple, si la tendance se poursuit pour la place des femmes chez les professeurs, on aboutira à une parité en 2068. Donc il faudra attendre encore un petit peu.
La semaine dernière, nous recevions un collectif, le collectif Clash, qui s'est saisi du problème du harcèlement sexuel à l'université. Et ça donnait l'image, et peut-être aussi votre association, d'une université encore beaucoup contrôlée par des mandarins, de vieux hommes blancs qui ne veulent pas laisser leurs privilèges. Alors, je ne dis pas tous, qui sont tous prêts à harceler de jeunes étudiantes sexuellement, mais ça donnait l'image, voilà, de c'est une espèce d'immobilisme. On aurait dit qu'on parlait de l'université des années 70.
Ben, faire disparaître ce genre de situation, je comprends que ce soit un objectif et je pense qu'on pourrait notre association pourrait le partager complètement. En même temps, mon expérience de présidente me fait penser que ça reste des situations marginales, voire très marginales, et heureusement.
Ah, vous rencontrerez le collectif Clash, ils sont très très intéressants.
En vous écoutant, je repense à beaucoup de situations ces dernières années où quand un recteur devait être nommé ou à un poste à responsabilité dans l'administration, la rumeur disait « on cherche une femme, on cherche une femme ». Et apparemment, c'est très dur dans le milieu de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de trouver une femme. On cherche beaucoup de femmes en ce moment. Alors, qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui fait que le vivier est insuffisant? Ce n'est pas un problème de formation, puisque les femmes sont plus diplômées que les hommes, d'après les statistiques. Qu'est-ce qui coince?
On est à la radio, les graphiques sont très parlants. On voit bien que dès qu'on gravit les échelles, il y a de moins en moins de femmes. Hein. Donc voilà, j'ai donné quelques chiffres tout à l'heure. On pourrait en prendre dans les organismes de recherche, c'est la même chose. C'est-à-dire que dès qu'on monte en responsabilité et en grade, la proportion de femmes est de plus en plus faible. Donc ça devient difficile effectivement de trouver des femmes qui n'ont pas auparavant expérimenté des postes à responsabilité. L'objectif de notre association, c'est y compris d'aider des jeunes femmes à prendre des postes de responsabilité de laboratoire ou de département ou de faculté dans les universités pour qu'elles aient des premières expériences qui leur permettront ensuite de viser plus haut et de pouvoir accéder à des responsabilités plus élevées. Donc c'est pas à pas et chacun des paliers, chacune des étapes est une étape à franchir pour qu'au sommet, on puisse trouver plus de femmes.
Est-ce qu'il y a une forme d'autocensure chez les femmes qui existe dans d'autres milieux professionnels quand on vise un poste à responsabilité ?
Autocensure, oui, mais l'institution peut aussi évoluer et apporter un plan d'action.
Et ben, on l'espère, en tout cas, en vous écoutant. Merci beaucoup, Sophie Béjon.
Et merci beaucoup, Marie-Caroline Missire.
France Culture Plus.
Toutes les semaines, Rue des Écoles vous présente le meilleur et le plus singulier des programmes de France Culture Plus. Aujourd'hui, l'anthropologie par Marc Auger à une époque qui ne sait plus où elle va, ni ce qu'elle veut, quel rôle assigner à l'anthropologie, dans quelle mesure le regard critique de l'anthropologue peut-il redonner du sens à un monde qui a perdu ses repères.
L'ethnologue, traditionnellement, c'est vrai que c'est une fonction qu'on associe au voyage. Parce que l'ethnologue est celui qui part dans un continent plus ou moins lointain et qui va s'exercer à regarder les autres. On pensait même que cette vertu du regard éloigné peut s'exercer ensuite sur sa propre société à la faveur de cette expérience. Je crois que les choses ont un peu changé aujourd'hui. L'ethnologie ne s'exerce pas nécessairement dans des territoires lointains. Ce qui compte, c'est le type de regard que l'on porte sur les choses.
Une conférence organisée par l'Université européenne de Bretagne à voir sur France Culture Plus. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine à 15h pour parler de pédagogie à l'université.